Radio 213. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio 213, votre radio consacrée au conflit de la guerre d'Algérie. Je me présente Léa en tant qu'animatrice tout au long de cette émission, avec mon collègue Romaric.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons deux spécialistes contemporains de la guerre d'Algérie, Raphaël et Mathis, qui vont débattre avec nous. La guerre d'Algérie est un conflit armé qui s'est déroulé de 1954 à 1962. C'était une colonie française depuis 1830, divisée en départements depuis 1848. L'aboutissement est la reconnaissance de l'indépendance du territoire le 5 juillet 1962.
Nous allons nous appuyer sur deux bandes dessinées, l'histoire dessinée de la guerre d'Algérie de Benjamin Stora et Sébastien Vincent, ainsi que la bande dessinée de Philippe Richel, L'Algérie, une guerre française.
Voici une lecture de la BD Histoire dessinée de la guerre d'Algérie. Le 8 mai 1945 est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le début de ce qu'on appelle les événements de Sétif, qui annoncent la guerre à venir. Il s'agit d'un soulèvement populaire suivi de représailles qui feront au moins 15 000 morts dans la population civile. Le 8 mai 1945, partout en France, on célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie aussi, on manifeste. Dans la plupart des villes, les Algériens musulmans défilent dans la rue. La foule veut surtout affirmer son opposition à la présence coloniale française. Les banderoles contestataires fleurissent dans le cortège. Dans la ville de Sétif, un drapeau algérien, alors interdit, émerge au milieu des manifestants. Un policier perd son sang-froid. Bouzid Sahal, le jeune Algérien qui a brandi le drapeau vert et blanc, est tué. La police tire dans la foule, c'est l'émeute.
Bonjour à Raphaël, bonjour Mathis.
Bonjour.
Bonjour.
À présent, nous vous proposons de débattre autour de cette question. Est-ce qu'à travers les bandes dessinées, nous pouvons retransmettre les événements tragiques de la guerre d'Algérie ?
Alors, je pense qu'à travers la BD « Histoire dessinée de la guerre d'Algérie » de Benjamin Stora, je peux affirmer que la BD retransmet bien l'histoire de la guerre d'Algérie de façon impartiale. Pour commencer, Benjamin Stora est un expert de la guerre d'Algérie. Il est notamment à l'origine d'un rapport sur la guerre d'Algérie où il dit que la France devrait regarder l'histoire en face et assumer son passé colonial. Ainsi, sa BD pourrait être comparée à un manuel d'histoire.
Je vous arrête, Mathis. Je ne suis pas d'accord avec votre dernier propos. Étant spécialiste en histoire contemporaine et plus particulièrement de la guerre d'Algérie, je ne trouve pas du tout que cette guerre soit réaliste à travers les livres d'histoire que l'on peut étudier en cours d'histoire-géographie.
Oui, mais pouvez-vous justifier vos propos ?
En effet, la colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. C'est une histoire très singulière qu'il faut regarder sous trois angles. La conquête, l'exploitation, puis la guerre. Les militaires français, lorsqu'ils se livrent à leur conquête algérienne, le font avec une telle brutalité qu'ils épouvantent même l'Europe. Il y a une campagne de presse en 1845, par plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, qui proclament que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. Je vous mets au défi d'ouvrir un livre d'histoire pédagogique d'histoire. Vous verrez qu'à aucun moment on ne met en lumière la brutalité de l'armée française envers les Algériens.
S'il vous plaît, ne remettez pas en cause mes années de travail autour de cette guerre. Reprenons par exemple la BD de Benjamin Stora. Si vous l'aviez lue, vous sauriez que toute une partie est dédiée à une description des événements précédant la guerre. De plus, la violence française est clairement dénoncée.
Nous allons à présent vous lire une planche de la BD « Algérie, une guerre française, tome 2 ». Nous avons choisi ce passage car il évoque les pratiques de torture utilisées par l'armée française. La scène se déroule d'abord dans une salle de torture, puis un peu plus tard dans un bar où le soldat, surnommé Loulou, noie sa culpabilité dans l'alcool.
On a commencé par malmener un peu le gars, tu vois ce que je veux dire ? En général, c'est suffisant pour les faire parler, mais lui, il continuait de nier. Alors on est passé à la GIGN.
Comment ça marche ?
Des électrodes de générateurs de campagne, utilisées pour alimenter les postes émetteurs-récepteurs, sont appliquées sur les testicules. Ensuite, on envoie le jus avec de plus en plus d'intensité. Ça a duré plusieurs heures. Le gars est mort sans avouer. Si ça se trouve, il n'avait rien à se reprocher. Je ne souhaite à personne d'assister à ce genre de truc. Bon, je m'en reprends un mois.
Tu devrais pas, Loulou. On a déjà pas mal éclusé.
Fiche-moi la paix, Joe. Je sais ce que je fais.
Entendu. Mais je vous rappelle que cette BD que vous citez met aussi beaucoup en avant le crime du côté algérien.
Alors, je tiens à souligner que tous les événements sont tirés de la réalité et que donc l'Algérie a commis quand même beaucoup de crimes, surtout le FLN.
Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le philosophe français Alexis de Tocqueville a lui-même légitimé les, je cite, « boucheries en Algérie », comme il les qualifiait. Il cite ensuite « Les Français, en 27 ans de conquête algérienne, ont rendu la société musulmane beaucoup plus misérable et barbare qu'elle ne l'était avant de nous connaître. La conquête est maintenant terminée, l'exploitation commence, qui exproprie pour une bouchée de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Les Algériens musulmans sont chassés et connaîtront des années de famine sur leur territoire. Des familles pieds-noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. Nous, Français, nous avons martyrisé tout un peuple pendant un siècle. Écoutons à présent une lecture.
Le printemps s'est installé. Dumont, le contremaître, donne leur paye hebdomadaire aux ouvriers.
C'est moins que la semaine dernière.
C'est comme ça, Rachid. Au suivant.
Nous sommes sous-payés par rapport aux ouvriers français et vous rabotez encore notre salaire.
Si t'es pas d'accord, tu prends ton baluchon et tu te casses.
Je veux la même chose qu'avant.
Viens ici. Viens, c'est un ordre.
Il sort une arme.
Alors, tu te décides ?
Justement, je trouve votre propos incohérent et sans réelle pertinence. En effet, vous venez ici pour nous dire que les Français sont érigés en héros, mais venez vous-même de citer une de ces BD qui évoque la torture. Je trouve au contraire que ces passages retranscrivent le réalisme de ces BD. Les crimes français sont dénoncés, ceux des Algériens aussi. Quel côté faut-il défendre ? Je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de le dire. Toutefois, adopter une vision manichéenne serait réducteur, bien que cela n'ait pas beaucoup l'air de vous déranger.
Nous vous remercions pour vos avis. Nous voyons que les opinions sont partagées sur cette guerre. À présent, nous aimerions nous concentrer sur le graphisme des bandes dessinées.
Raphaël, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des BD de Philippe Richel ?
Philippe Richel écrit toutes ses BD de la même manière. La première de couverture est rédigée d'un gros texte en gras aux couleurs de l'Algérie, accompagné du croissant lunaire, symbole représentant la religion la plus présente en Algérie, l'islam. Les BD sont faites de dessins grossiers, le langage est adapté pour les enfants, les bulles sont courtes et souvent accompagnées d'onomatopées. Les graphismes retransmettent bien la violence de cette guerre. Enfin, les trois tomes permettent une bonne analyse ainsi qu'une bonne compréhension du conflit franco-algérien.
Merci Raphaël. Et vous Mathis, que pensez-vous de la BD de Benjamin Stora ?
Je suis d'accord avec vous, ces BD retranscrivent bien la violence, on voit du sang, de la torture et cela retranscrit bien l'horreur des événements de la guerre d'Algérie. Les graphismes de Benjamin Stora sont assez abstraits. En effet, ils sont plus là pour appuyer le propos que pour réellement sublimer l'histoire. Dans sa BD, il n'y a pas de préface ni de postface. On voit bien que cette BD a plus pour but d'instruire que de divertir. A l'inverse, la BD de Philippe Richel, il n'y a pas d'histoire fictive et tous les personnages cités ont existé.
Merci Raphaël, merci Mathis d'être venu à nos côtés aujourd'hui et de nous avoir éclairci sur cette guerre.
Nous remercions aussi les auditeurs de nous avoir écoutés le long de ce débat.
L'équipe de Radio 213 vous souhaite une bonne journée.
Radio 213.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
Héritage rwandais.
Et bienvenue tout le monde, on se retrouve dans notre émission avec aujourd'hui en chroniqueuse Jade. Jade, comment ça va ?
Ça va super.
On aura aussi autour de la table Lara. Comment tu vas ?
Ça va.
Nos deux chroniqueurs, Naïl et Elia, comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci.
Aujourd'hui, dans l'émission, on va parler du Rwanda. Le Rwanda, c'est ce petit pays d'Afrique de l'Est qui partage ses frontières avec, au nord, l'Ouganda, à l'est, la Tanzanie, au sud, le Burundi et à l'ouest, la République démocratique du Congo. Le Rwanda a une population totale de 12 millions d'habitants. Et pendant les années 90, entre le 7 avril et le 17 juillet 94, soit sur une période de 3 mois et 10 jours, plus d'un million de Tutsis sont morts au cours d'un génocide massacré par des crimes de masse prospérés par les Hutus.
Alors merci Mathéo pour cette petite intro. Je vais d'abord faire le sommaire. Alors nos deux chroniqueurs Naïl et Jade vont vous présenter une première chronique basée sur l'histoire du génocide rwandais. Ensuite nous retrouvons le chroniqueur Naïl accompagné de Mathéo, qui vont vous présenter une deuxième chronique où nos deux chroniqueurs vont vous exposer deux visions différentes du génocide. Et enfin, vous aurez l'honneur de me retrouver sur une interview en compagnie d'une étudiante en lettres spécialiste de Jean-Philippe Stassen.
C'est parti pour la première chronique orchestrée par Naïl et Jade sur l'histoire du Rwanda. C'est à vous.
Merci Mathéo. Donc, lors de la décolonisation du Rwanda dans les années 60, débute un conflit pour le pouvoir entre les Tutsis minoritaires en nombre, mais qui détiennent le pouvoir soutenu par les Belges, et les Hutus qui en sont majoritaires en nombre. Cependant, en 1962, les Belges changent de camp et soutiennent les Hutus car ils en sont en majorité géographique. De ce fait, les Hutus prennent le pouvoir et instaurent une dictature de terreur. Dès lors commence la fuite des Tutsis et les premiers massacres.
En effet, les extrémistes Hutus au pouvoir depuis 1962 sont prêts à tuer tous les opposants, y compris les Tutsis, d'où la préparation de la suppression de cette communauté afin de conserver le pouvoir. Dans l'organisation de ce génocide, les Hutus vont mettre en place une propagande idéologique ainsi que l'utilisation de la radio, notamment celle des Mille Collines, afin de diviser cette propagande. Un seul groupe politico-militaire Hutu monopolise le pouvoir, relié par une administration efficace.
C'est en avril 1994 que débute le génocide du Rwanda. 500 000 Rwandais sont tués et 2 millions quittent le pays et se réfugient au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie. Dès lors, les Français mettent en place l'opération turquoise, qui est très bien racontée dans la BD La fantaisie des dieux Rwanda 1994. Notamment avec la participation de nombreux acteurs qui ont vécu ou participé à cette opération, permettant de se rapprocher au plus près de la réalité des faits et d'utiliser cette BD pour comprendre une partie du conflit. Pour les Français, l'opération est une réussite car elle permet de sauver la vie de milliers de Tutsis qui se réfugient dans des camps. Pour d'autres, elle est critiquée car elle arrive tardivement, n'empêche pas les meurtres de Tutsis par des milices Hutus au sein même des camps de réfugiés. Qui fait référence à un passage de la BD Rwanda 1994, La descente en enfer. En effet, la BD de Cécile Grenier et Alain Ostini nous permet d'en apprendre plus sur l'histoire du génocide rwandais, suite à plusieurs années de recherche, dont 7 mois passés au Rwanda, pour récolter des témoignages, les auteurs en ont tiré une fiction éprouvante basée sur des faits réels.
Dans cette BD, on vit les choses de l'intérieur, grâce notamment au personnage de Mathilde, qui doit survivre seule avec ses 3 enfants. On suit donc son histoire tout au long de la BD. C'est l'aspect meurtrier qui est mis en avant dans le Rwanda 1994 et qui montre donc le côté tragique de ce génocide et raconte les conditions de vie que subissent les Tutsis dans les camps de réfugiés, notamment avec la crainte du choléra, cette maladie meurtrière qui se diffuse dans l'eau et au contact d'autres personnes, et celle des meurtres commis par les Hutus. Dans cette BD, Mathilde se retrouve chassée par un groupe de tueurs Hutus dans la rue pendant des jours, puis dans les camps de réfugiés. Ce passage nous permet de mieux illustrer ses conditions de vie.
Et oui, merci à nos 2 chroniqueurs qui nous ont bien résumé cette période affreuse pour les Rwandais. On retrouve tout de suite Naïl, accompagné d'un nouveau chroniqueur, Mathéo, qui nous partage 2 visions différentes de l'implication de la France dans ce génocide.
25 ans après le génocide au Rwanda, la question du rôle joué par la France dans cette tragédie se pose encore. Surtout qu'en 2019, le président français Emmanuel Macron a autorisé l'ouverture des archives françaises à un comité d'historiens. L'objectif de cette ouverture est d'apaiser les tensions entre la France et le Rwanda, mais aussi de faire la lumière sur le rôle de la France pendant le génocide. Pour cela, on va faire un petit tour des journaux pour récolter les réactions et essayer d'élucider cette affaire. Alors on va commencer par un article de France Inter qui, avec France Radio et Mediapart, ont mené une investigation dans laquelle on y retrouve notamment un témoignage inédit d'un ancien général. Ce général, c'est Jean Varré, aujourd'hui retraité, il était chef de la mission militaire au Rwanda. Très vite, Jean Varré dit avoir compris ce qui allait se passer quand il a fait la rencontre d'un chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise. Au cours de cette réunion, le chef rwandais lui réclame des armes lourdes pour, je cite, « les liquider » en parlant des Tutsis. Choqué et très lucide sur ce qu'il venait d'apprendre, le général français décide d'alerter ses supérieurs et le pouvoir politique sur les intentions du chef de gendarmerie. Pourtant bien placé et proche des chefs militaires et de François Mitterrand, Jean Varré dit « mes avertissements n'ont pas été pris en compte, désavoué à plusieurs reprises, Jean Varré n'a pas été reconduit dans ses fonctions alors qu'il le souhaitait, il est remplacé 1 an plus tard, c'est le début du génocide au Rwanda. Pour lui, la France a bien joué un rôle dans le génocide des Tutsis, car il estime qu'il était assez informé sur les événements à venir. » Enfin, dans un autre article que j'ai trouvé sur Libération, publié récemment, on apprend que la commission des historiens a rendu son rapport au président français et pointe de façon accablante l'implication de la France et plus particulièrement François Mitterrand. La commission dénonce l'obsession des décideurs de l'époque, ce qui vient renforcer le témoignage du général français qui dénonce lui un manque de considération face à ces révélations. La commission pointe également du doigt la passivité de la France en 1994 et la responsabilité personnelle du président François Mitterrand.
En effet, Mathéo, L'application de la France a été révélée notamment grâce à la déclassification des archives concernant cette période tragique, qui s'est déroulée dans un grand silence. Il s'avère que l'implication de la France est déjà révélée depuis plusieurs années, comme dans cette BD de Patrick Saint-Exupéry, qui a été témoin de ce conflit en tant que journaliste lors de ses années sur le terrain. Dans cette BD, l'événement est raconté par le narrateur qui, au cours du déroulement de l'histoire, fait intervenir de nombreux personnages historiques qui ont participé de loin ou de près, comme par exemple François Mitterrand, qui était le président de la République française de 1980 à 1995, et qui dira une citation importante montrant la prise de conscience sur ce génocide. Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Dans l'épilogue de cette BD, nous avons un passage qui montre l'application de la France. En effet, lors de cet extrait, page 86, le chef d'état-major, qui est l'amiral Langsad, après la fin de la grande moisson qui correspond à une grande liquidation de la population Tutsi, se rend à un vin d'honneur organisé par l'armée avec l'intervention de Hutu qui scande des « Vive la France » pour préparer un accueil chaleureux aux Français. Lors de ce pot de vin, il reçoit un présent des Hutus, mais le plus important est qu'au cours de cette cérémonie, un gendarme de Bicéro s'écroule car il sait qu'il forme de nombreux assassins, car la France a apporté un soutien militaire avec de nombreux formateurs rompus aux techniques de combat, amenant une grande expérience au bourreau Hutu, une aide financière et diplomatique au gouvernement d'Habyrimana.
Merci Anaïl et Mathéo pour cette discussion autour de l'implication de la France dans le génocide rwandais. On va donc passer à l'interview d'Elia avec Lara, qui ont parlé de Stassen et de CVD sur le génocide du Rwanda.
Alors merci Jade. Lara, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents auteurs des BD qui se sont concentrés sur le génocide rwandais ?
Oui, sans souci. Les auteurs des BD que j'ai pu étudier se consacrent principalement au génocide du Rwanda. Si on prend l'exemple de Jean-Philippe Stassen, un auteur belge de bande dessinée, il se consacre dans sa vie professionnelle ainsi que personnelle au pays d'Afrique, de par ses nombreux voyages qu'il a pu effectuer, et dans sa vie professionnelle en consacrant les histoires de ses BD au Rwanda. Déocratias en 2000, puis Pawa en 2002. Ce sont deux BD totalement différentes, mais qui nous permettent d'en apprendre davantage sur les génocides du Rwanda, ainsi que des pratiques locales des habitants pour se plonger dans la vie de ces individus. Mais ce n'est pas le seul que j'ai pu rencontrer. Dans mes multiples recherches, en effet, Cécile Grenier et Ralph sont également beaucoup sortis. Présente au Rwanda sur les lieux en question en 1994, leur présence a permis le recueil de témoignages et donc d'en apprendre davantage sur les faits retraçant dans la BD Rwanda 1994.
Alors, en tant que spécialiste sans prétention bien sûr de Jean-Philippe Stassen, comment Stassen a réussi à transcrire au lecteur les souffrances du génocide rwandais dans ses œuvres? Presque autant que dans la BD Rwanda 1994.
Alors en effet, Stassen a réussi à transcrire avec évidence les multiples souffrances vécues en 1994, notamment grâce au fait qu'il ait pu traverser dans sa jeunesse de nombreux pays d'Afrique, comme le Mali ou encore l'Algérie, des voyages qui se traduisent fortement dans ses œuvres. Dans Déocratias, Stassen a décidé de mettre en vie un adolescent qui penche fortement vers le fictif, en le faisant se transformer en animal la nuit pour montrer les dégâts psychologiques que le génocide a eu sur les populations Tutsi et Hutu. Très clairement pris de folie, l'adolescent retranscrit les conséquences post-génocide sur l'ensemble de la population présente en 1994. Mais l'intervention du génocide du Rwanda dans son œuvre est assez minime face à l'histoire tout autour qui anime sa BD. Comme vous l'avez tourné dans la question, Albin Michel est plus centré sur le sujet en question. En effet, on se projette dans plusieurs scènes durant le génocide, en étant au milieu des actions souvent représentées par des actions sanglantes qu'il favorise pour démontrer explicitement l'animosité de ces combats.
Oui, tout à fait, Lara. J'ai pu remarquer cela à la page 53, par exemple, du livre de Albin Michel. On voit clairement un homme se faire tuer à la machette.
Effectivement. De plus, son œuvre est tirée de faits réels. ce qui nous plonge davantage dans les scènes qui se sont réellement produites et donc de comprendre les traumatismes des survivants décrits par Stassen.
Dans le livre Paua, c'est vraiment pas un livre comme les autres. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce livre ?
Bien sûr. Édité par Jean-Philippe Stassen, Paua est une BD complète synthétisée en 14 chroniques. Auteur primé, Stassen sait tout sur le sujet et possède ses propres sources d'informations, notamment en se rendant sur les lieux, au cœur même du pays, des monts de la Lune. Ce livre peut en effet être catégorisé comme particulier, car l'auteur a voulu partager d'autres informations qui permettent au lecteur de bien comprendre les réalités actuelles et passées de la région. La BD s'articule autour de témoignages de Rwandais, mais pas seulement. Il y a également des recueils de bourreaux, businessmen ou encore de curés, afin d'étoffer l'histoire avec différents avis. On peut également y retrouver des recettes de cuisine locale ou même des notes linguistiques.
Oui, alors j'ai décidé de vous lire une recette qui est dans le livre Paua, simplement, une recette locale. Alors, pour les ingrédients, il vous faudra un estomac et un intestin de chair, de l'eau, cube de bouillon, sel, poivre, ail, poireau et un citron. Pour le dérouler, après avoir lavé la panse de l'animal, coupez-la en petits morceaux, faites bouillir de l'eau dans une marmite, jetez-y un ou deux bouillons de cubes, du sel, une bonne quantité de poivre, un peu d'ail et un poireau grossièrement haché. Faites pocher les morceaux de panse dans ce bouillon. Au bout de 30 minutes, retirez-les et pressez un citron par-dessus. Videz les boyaux et retournez-les. Lavez-les à l'eau froide. Entre les deux doigts d'une main, saisissez des morceaux de panse et avec l'autre main, enroulez autour de ces morceaux une bonne quantité de boyaux. Fixez-les ensemble sur un pic à brochette. Continuez jusqu'à ce qu'il ne reste plus ni de panse ni de boyaux. Faites griller ces brochettes sur un barbecue à feu moyen. Dégustez avec de l'eau ou du whisky.
Recette testée et approuvée ?
J'ai pas encore pu tester, mais c'est un peu particulier.
Personnellement, moi, ça me tente pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jade, mais moi, je testerai pas.
Ça me tente pas du tout.
Eh bien, cette émission touche à sa fin. Je remercie toute l'équipe et mes chroniqueurs pour cette émission. Bon week-end à tous.
Héritage Rwandais.
Les chroniques d'ex-Yougoslavie.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons des guerres d'ex-Yougoslavie et des BD qui permettent de comprendre celles-ci. Les guerres de Yougoslavie sont une série de conflits violents dans les territoires de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 2001. Deux séries de guerres se sont succédées, affectant les six républiques de la défunte République fédérative socialiste de Yougoslavie. Les guerres ont causé 140 000 morts. La plupart des guerres se terminèrent par des accords de paix impliquant la pleine reconnaissance internationale de nouveaux États, mais aussi avec un coût international une fois énorme et des dommages économiques pour la région. Sur les décombres de cette guerre, quatre nouveaux pays surgiront, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie et le Kosovo, mais tous auront payé leur indépendance au prix fort. Il y a beaucoup d'ouvrages, de récits, de témoignages sur cette guerre, notamment des BD comme Gorazdje, de Joey Sacco ou encore Cliché de Bosnie d'Aurélien Ducoudray. Ces BD rendent compte de choses différentes, de certains aspects et des témoignages du conflit. Dans cette émission, on va donc se demander si la BD est un moyen de découvrir l'histoire et de mieux la comprendre. Pour ce faire, nous accueillerons Marie-Lou, Marie et Sophie. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Pour vous, pouvons-nous apprendre l'histoire avec des BD ?
Personnellement, je trouve que les BD peuvent être un bon moyen, facile et ludique, pour apprendre et comprendre l'histoire. Ici, en l'occurrence, la guerre de l'ex-Yougoslavie. C'est lors de mes lectures de certaines BD telles que Gorazdje de Joey Sacco ou Les tambours de Srebrenica de Philippe Lobjoy et Elio Rimbaud que j'ai pu faire ce constat.
Présentez-nous brièvement les BD que vous avez pu lire.
Concernant la BD Gorazde de Joe Sacco publiée en 2011, elle relate le calvaire des habitants de Gorazde, une enclave musulmane en plein territoire serbe. Racontée à travers le témoignage direct des habitants que Joe Sacco a recueilli tout au long de ses voyages de 1995 à 1996 dans une région martyrisée par la guerre de Bosnie. L'auteur Joe Sacco est donc un auteur de BD et un journaliste né à Malte. Son genre artistique, les BD documentaires.
Et pour l'autre BD ?
Concernant la BD « Les tambours de Srebrenica » de Philippe Lobjoie et d'Elio Rimbaud, publiée en 2019, elle relate l'histoire d'Hugo Bédé Carax, jeune enquêteur français détaché auprès du tribunal pénal international de La Haye. Il se retrouve propulsé dans une gigantesque chasse à l'homme où s'entrecroisent groupes de vengeance et criminels de guerre yougoslaves alors même qu'une autre guerre vient de commencer. Les auteurs, eux, sont français. L'un est journaliste de guerre pour la presse et la télévision et auteur, et l'autre est BD reporter et journaliste.
Tout de suite, un extrait du journal de Joe Sacco par Apolline.
Au bout de 4 mois et demi en Bosnie, j'avais rempli 475 pages sur Gorazde, mais aussi sur quelques sujets relatifs à Sarajevo. Relire l'ensemble pour cette édition spéciale n'a pas été une partie de plaisir. En dehors de certains épisodes vraiment cocasses et intéressants, j'ai dû me coltiner les mornes descriptions de mon état psychique de l'époque, que j'avais commodément occulté depuis.
Pourquoi et comment ces BD permettent-elles de comprendre l'histoire ?
Gorazde de Joe Sacco est pour moi une BD riche en informations qui permet de comprendre l'histoire de la guerre de l'ex-Yougoslavie. En effet, on nous raconte les étapes de la guerre en détail, avec des dates et des exemples précis. Exemples qui sont principalement des anecdotes et des souvenirs de personnes qui ont vécu cette période tragique, qui ont dû fuir leur pays ou se cacher pour éviter d'être tués à cause de leur religion, ethnie ou autre. Nous avons aussi le point de vue de l'auteur qui peut nous en apprendre plus.
Et pour les tambours de Srebrenica ?
Les tambours de Srebrenica de Philippe Lobjoie et d'Elio Rimbaud, elle, est une BD principalement basée sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et sur le massacre qui a eu lieu à Srebrenica au mois de juillet 1995, où 8000 hommes et adolescents bosniaques ont été tués. Je pense qu'elle est intéressante, surtout en tant que complément et d'autres à d'autres ouvrages pour posséder plus de détails sur le tribunal et sur le massacre.
En conclusion, que pouvons-nous dire ?
Eh bien, si vous voulez lire ces BD, il faut tout de même avoir un minimum de connaissances sur le sujet, et surtout pour la seconde BD qui parle principalement d'un massacre qui a eu lieu pendant la guerre.
Merci Marie-Lou pour cette intervention.
Avec plaisir.
On fait une petite pause musicale, on ne quitte pas les rivages de l'ex-Yougoslavie puisqu'on écoute le chanteur serbe Đorđe Balešević.
Pragu svojih 20 bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana. Ne želim svega ni da se setim, sva što sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana. Sad žalim da, a šta sam znao ja? Bila još devojčica, leteo je kao leptir tvoj čuperak. Drugi bi sve ti malo smisao, a drugčije bi život pisao. Da sam znao da postojiš, Olivera. Možda smo a da nismo znali, pred isti izlog negdje stali. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se zatrenuli na višnji. Sad žalim da, a šta sam znao ja, a ti si bila još devojčica, daleko od moga oka i mog pera. Drugi mi sve imalo smisao, čekaj, ne bi svakoj pesme pisao, da sam znao da postojiš. I nikom ne bi bilo jasno šta ja to smeram. Znao bi gde da sebi nađe mir, skrio se u tami manastir i čekao da ti odrasteš, Olivera.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Pouvez-vous nous résumer la BD Clichés de Bosnie d'Aurélien Ducoudray?
Publiée en 2013, la BD raconte l'histoire du photographe et journaliste Aurélien Ducoudray. Il est parti en voyage humanitaire en ex-Yougoslavie. Il y a découvert lors de son périple la misère des peuples anéantis après cette guerre. Le scénariste a participé lui-même à l'histoire qu'il raconte dans la BD. Quant à l'illustrateur, François Ravard, il est allé sur place pour s'inspirer et a travaillé sur d'autres BD avec Aurélien Ducoudray. Le héros principal de la BD est Arlette, une militante humanitaire qui voyage chaque année pour apporter des denrées alimentaires, des jouets et des meubles pour les habitants d'ex-Yougoslavie.
Mais pour qui est-ce écrit ?
La BD a des graphismes assez simples, mais plutôt pertinents. Elle peut être lue par tout type de personnes. L'histoire est très simple à comprendre et plutôt amusante.
Trouvez-vous que cette BD permet de comprendre l'histoire ?
Je pense que si l'on n'est pas assez renseigné en amont sur le sujet, sur cette guerre, on ne peut pas vraiment comprendre la guerre d'ex-Yougoslavie. De plus, la BD ne parle pas de la guerre en elle-même, mais plutôt de l'après-guerre et des réfugiés.
Pouvez-vous nous donner votre avis personnel sur cette BD ?
J'ai trouvé la BD très claire et simple à comprendre, même si l'on ne connaît pas ce conflit. Je pense que pour vraiment comprendre la BD, il faudrait avoir fait des recherches en amont, ou bien avoir déjà lu la BD Gorazde que Marie-Lou vient de nous présenter.
Une autre BD raconte une expérience humanitaire vécue par l'auteur Estelle Dumas. Un des extraits des paroles de l'auteur explique comment elle en est venue à écrire cette BD. Voici un extrait.
L'histoire que vous venez de lire, c'est la mienne. Les gens de Sarajevo et de Gorazde ont démontré que l'art est essentiel tout autant que la nourriture pour l'être humain. Quelle gifle violente et magnifique à la fois ce fut pour moi. Cette histoire, je l'ai écrite sous forme de scénario pour le cinéma. Il a d'ailleurs été sélectionné au Festival de Cannes pour la Maison des scénaristes en 2015, mais il n'a jamais trouvé de producteur. C'est alors que l'on me parle du 9e art, la bande dessinée, que je découvre avec plaisir. Il me fallait partager cette magnifique leçon que la vie m'a donnée.
Nous pouvons mettre en relation Clichés de Bosnie avec la BD Des bombes et des hommes d'Estelle Dumas. Sortie en 2020, elle raconte sa propre histoire. Partie en ex-Yougoslavie à l'âge de 24 ans pour un voyage humanitaire. En ramenant des vivres sur place, la population lui explique qu'elle préférerait voir des films parce que l'art peut parfois être aussi nécessaire que de manger. Ce jour-là, Isabelle, nom fictif d'Estelle Dumas, se prend une gifle morale et prend une décision qui changera sa vie. Elle va leur apporter des films.
Merci Marie. À présent, on va parler de deux autres BD avec Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Pouvez-vous nous donner votre avis sur la question ?
Pour ma part, j'ai eu l'occasion de lire le tome 1 de la BD de science-fiction d'Enki Bilal, un auteur de bande dessinée et réalisateur français né le 7 octobre 1951 en Yougoslavie. Cette BD se nomme Le sommeil du monstre. C'est une BD que j'ai vraiment aimée. Les graphismes de couleurs sont vraiment futuristes et très bien réalisés. Cette dernière raconte l'histoire à trois voix de Nike, Leila et Amir, dont la rencontre s'est faite dans un hôpital à Sarajevo en 1993, lors de l'éclatement de Yougoslavie, qui est d'ailleurs le lieu de naissance d'Enki Bilal.
Donc l'histoire se déroule après la guerre.
Oui, l'histoire se déroule en 2026 lors d'un mouvement monothéiste radical qui souhaite éliminer toute la science et tout savoir, mais il ne se gêne pas pour employer des technologies de doublure robotique et des mouchards miniatures. C'est une BD qui va, je pense, être plus complémentaire aux autres BD et à l'histoire. Elle va apporter une autre vision du conflit.
Et pour qui est-ce écrit ?
C'est un livre qui est identifié comme tout public, mais elle n'est pas évidente à mettre en lien avec la guerre d'ex-Yougoslavie. Je trouve personnellement que si nous n'avons pas un minimum de connaissances, il est assez difficile de comprendre et de faire des liens avec cette guerre.
Et maintenant, voici un extrait du Sommeil du monstre du personnage Nike.
Jour 17. Je me souviens. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvre brutalement. L'odeur de ce que je sais déjà être du sang est si puissante que j'en éprouve le goût dans la bouche au point de me vomir dessus. Une table roulante passe à grande vitesse, poussée par trois infirmiers. Il y a de la chair rouge et vibrante dessus. Quelqu'un parle d'un obus sur un marché. J'imagine que mon hypersensibilité olfactive date de ce jour.
Pour conclure, nous pouvons remarquer que la guerre d'ex-Yougoslavie est une guerre qui est très peu abordée, surtout à l'école, alors que c'est une guerre importante qu'il faut connaître et étudier. Merci de nous avoir suivis et écoutés. C'était les chroniques d'ex-Yougoslavie présentées par Flavie avec l'intervention de Marie-Lou, Sophie et Marie et la participation à la lecture des textes et aux sons. Voici la liste des BD, Des bombes et des hommes d'Estelle Dumas, Goragdier de Joey Sacco, Cliché de Bosnie d'Aurélien Ducoudray, Les tambours de Srebrenica d'Eliott Rimbaud, les fables de Bosnie de Thomas Labrick et Le sommeil du monstre d'Enki Bilal.